ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Christian Ayerbe. Bonsoir Christian, merci d'avoir accepté de venir parler dans notre radio chrétienne. Vous avez été boulanger, vous avez été éducateur spécialisé et vous vous sentez aussi jeune que jamais et en même temps déprimé à la recherche de l'amour, c'est ça ?
Oh, c'est un peu exagéré, bonsoir, pardon, c'est un peu exagéré de le dire de manière aussi abrupte, je ne suis pas déprimé, heureusement pour moi d'ailleurs, mais c'est vrai que le monde actuel, ou en tout cas le rapport que j'ai à notre monde, est un rapport difficile, très anxiogène, qui fait partie aussi de ma nature. L'anxiété, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Bon, mais je dirais pas déprimé, c'est des moments de vrai bonheur, entrecoupés de moments difficiles.
Et nous nous sommes vus justement parce que vous êtes plein d'énergie, de foi et de conviction, mais pas vraiment chrétien dans la mesure où tous les dogmes, toute cette culture chrétienne ou catholique, ça vous dépasse un peu. Et pourtant, c'est autour d'un prêtre ouvrier, Jean Laure, que nous nous sommes retrouvés. Nous en reparlerons tout à l'heure et nous aurons sûrement une autre émission pour parler de Jean Laure, aurore boréale. C'est quoi une aurore boréale ? C'est ce mystère, ce phénomène fascinant où le soleil transforme la lumière et l'obscurité. Et alors, Jean Laure, c'est un prêtre ouvrier qui est allé en Afrique, n'est-ce pas ?
Oui. Oui. Alors, bon, Jean Laure, je l'ai connu sur le tard. C'est une amitié qui s'inscrit dans une histoire d'amitié où, antérieurement à ma rencontre avec Jean Laure, il y a eu notamment, et d'ailleurs c'est lui qui m'a permis de connaître Jean Laure, un prêtre qui lui n'était pas ouvrier mais défroqué, qui s'appelle Jean-Charles Seyan, que j'ai connu dans mes premiers pas d'éducateur au moment où j'apprenais ce métier. Donc les années où Jean Laure est bien plus âgé que moi, hein, puisque...
Il est né en 26.
Il est né en 26, moi je suis né en 58, ça fait quand même un gros écart. Et moi, j'ai fait la connaissance de Jean Laure il y a une vingtaine d'années. Donc, il était revenu de ses
d'Abidjan, de Côte Brazzaville. D'Ivoire.
Et cette amitié, elle s'est construite en groupe. C'est ça qui nous caractérisait, c'est que nous nous retrouvions, et c'est quelque chose qui continue, malheureusement, maintenant sans Jean-Charles et sans Jean, mais nous nous retrouvons encore avec Patrice, Bernard et Jean-François, à peu près tous les mois, pour partager un repas. Et c'est à ces occasions que j'ai fait petit à petit la connaissance de Jean, qui était tellement humble, mais tellement... ouvert, tellement cultivé, tellement chaleureux, fraternel.
Aumônier à la faculté des sciences de Rangueil, délégué à la coopération missionnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il interroge les croyants comme les incroyants, et c'est l'objet de notre réflexion de ce soir. Ma foi, j'y crois. Et alors, Aurore Boréale, on a dit, c'est le mystère du soleil et de la lumière, mais c'est aussi une série de réflexions ou d'homélies sur, je cite, la culture chrétienne médiévale. Nous en sommes restés, alors que nous allons dans la Lune et sur Mars, à des représentations du Moyen-Âge et même d'auparavant.
Mmh. Oui, c'est peut-être... C'est même évident, puisque... Au dernier moment, malheureusement, il n'a plus été possible de changer la première de couverture où on a Aurore Boréale, réflexion sur la culture chrétienne médiévale. Mais au final, Jean m'a fait savoir que c'était pas ce qu'il souhaitait exactement qu'il soit définitif comme titre. Ce qu'il voulait et qu'il développe tout le long du livre, c'est approcher la question de la foi en 2020 avec ce que la science, avec ce que la pensée, avec toute l'évolution de la culture, la considérer, cette question de la foi, avec les outils et l'évolution qu'il y a eu et qui est nécessairement à prendre en compte. Il dit il faut réfléchir avec les mots M-O-T-S d'aujourd'hui.
Pour guérir les mots M-A-E-X. Et alors, on part dans la cosmologie, on part dans la fourmi et la chrysalide qui va se développer en papillon. Mais un des chapitres qui vous a le plus intéressé, c'est celui du boulanger. Parce que revenons à votre parcours, à votre famille, le levier et le levain. Vous avez été apprenti. Parlez-nous un petit peu de votre enfance avec un père un petit peu rigide, un petit peu violent. Et en même temps, une grande attention aux migrants, parce que lui-même était un migrant.
Oui, disons que mon père est né en France, mais ses parents, que malheureusement je n'ai pas connus, ont quitté l'Aragon pour des raisons économiques, ce n'était pas pour des raisons politiques. Et donc, ont vécu... en France après cet exil et ont eu quelques enfants, dont mon père.
Boulanger.
Alors voilà, il a...
À Arreau.
À Sarrancolin. Hein, Sarrancolin qui est oui. À côté d'Arreau. Arreau, c'est parce que j'y ai fait les études au collège.
Jusqu'au BEPC, puis un CAP de boulanger.
Voilà. Oui, alors, bon, je pense que c'est pas très intéressant de parler de mon père, sauf que il m'a transmis un certain nombre de valeurs et principes dont je lui suis très reconnaissant. Et en même temps, effectivement, j'ai vécu avec lui en gros trois phases. La phase de l'enfant, pas de problème. La phase de l'apprenti, gros problème. Et la phase d'une réconciliation et d'une volonté de réparation. C'est comme ça que j'interprète sa volonté de m'aider à pouvoir réussir ma vie professionnelle en dehors de la boulangerie, puisque j'avais décidé de quitter la boulangerie.
En fait, par une sorte de maladie psychosomatique, vous m'avez dit, puisque vous avez fait une allergie à la farine, et c'est ça qui vous a sauvé d'une certaine violence de votre papa. Mais j'aimerais bien quand même que vous redisiez un mot. En quoi il était si attentif à ceux qui n'avaient pas d'argent et à qui on pourrait citer Brassens, tu m'as donné du pain lorsque dans ma vie j'avais faim.
Oui, c'était ça reposait sur des actes qui étaient des actes au quotidien. Je n'ai jamais été baigné dans un climat de militantisme ou d'une démarche de croyant de la part de mes parents. Voilà. Donc, je vais dire, le bien qu'il faisait, et à ce moment-là, je ne me rendais pas compte à quel point c'était une démarche altruiste, fraternelle et très noble. Le bien qu'il faisait, il le faisait comme si c'était tout à fait normal de le faire. Hein, c'était pas au nom d'un principe, non, c'était comme ça, parce que c'était comme ça qu'on devait faire. Et ça se traduisait par... il s'avère que Sarah Collin est proche de l'Espagne, tunnel de Bielsa, hein, puisqu'on a Saint-Lary à Ragnouet, tunnel de Bielsa. Et les premiers arrivés dans la région de Sarah Collin et des Hautes-Pyrénées ont été les Espagnols. Mais moi, quand j'ai commencé mon apprentissage de boulangerie, cette vague d'Espagnols était déjà passée et bien installée, mais par contre, il y avait encore des Portugais fraîchement arrivés, qui arrivaient encore un petit peu, et sont arrivés de manière très massive pour Sarah Collin, des Tunisiennes, des Algériennes, des Marocains. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones et les possibilités de communication que nous avions. Et c'était des hommes totalement déracinés, esselés, coupés de leur famille, qui débarquaient comme ça, qui travaillaient dans des entreprises de bâtiments ou des scieries pour la plupart, parce que c'était les entreprises du coin. Et ils avaient grandement besoin d'aide. Et donc cette aide, mes parents leur apportaient sur un plan administratif, pour des papiers qu'ils ne s'y comprenaient pas. Ils leur faisaient crédit, le temps qu'ils touchent la paye. Tout ce qu'ils pouvaient...
C'est pour ça que vous avez choisi en fait ce chant d'Aznavour, la bohème. Hein. Le ventre creux, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Vous pensez à toutes ces personnes-là, nous l'écoutons, merci.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème,
ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Qui pose.
Et ce soir, avec Christian Ayerbe, vous avez été apprenti boulanger et puis une allergie à la farine vous a sauvé d'une certaine violence de votre papa. Et vous avez alors choisi d'être éducateur spécialisé. Ça n'a pas été sans mal. Il a fallu quelqu'un qui vous encourage, qui vous stimule.
Oui, en fait, lorsque j'ai arrêté la boulangerie, suite effectivement à cette allergie, mais qui était la démonstration d'un impossible à continuer pour moi, j'ai erré professionnellement pendant 3 ans. Donc j'ai été amené à travailler manœuvre, parce que je n'avais aucune qualification autre que celle de boulanger. Travailler dans des stations de ski, dans des scieries, dans des entreprises de bâtiments. Bon. Et puis, il est arrivé un moment où je me rendais compte que je ne pouvais pas me projeter dans ma vie à user mon corps, donner toute mon énergie à des entreprises qui exploitaient mon travail pour accumuler de l'argent. J'ai été très, très, très en désaccord avec cette logique et je me sentais totalement aliéné. Et a germé à ce moment-là l'idée que si je faisais un travail pour aider d'autres personnes, ce serait peut-être pour moi un moyen de gagner ma vie et de sortir de cette logique que je dénonçais précédemment. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré un formateur d'un centre qui était à Muret, qui s'appelait l'Amphopar dans les années 75, à la personne de Bernard Delpy, qui a été le formateur qui pendant un an m'a accompagné et qui est devenu à partir de là un ami, et qui l'est toujours, et qui est un ami de Jean, d'ailleurs, avec encore plus de proximité que moi avec Jean.
Jean Laure, dont nous avions parlé en début d'émission, et dont nous reparlerons sans doute l'année prochaine. Mais oui, tout homme est acteur de sa vie s'il rencontre quelqu'un qui arrive à allumer le désir d'aller plus loin, de se dépasser.
Absolument.
C'est ce que vous avez expérimenté. Et Absolument. À votre tour, vous avez pu aider ces femmes de la rue, comme on les appelle, puisque vous vous êtes un peu spécialisé, comme éducateur spécialisé, à côté ou avec les prostituées.
Oui, donc pour avancer sur le cheminement, il y a eu donc cette préformation 4 ans d'études dans une école d'éducateurs. J'ai fait moniteur éducateur et j'ai enchaîné éducateur spécialisé. J'ai travaillé une dizaine d'années pour le CCAS à Toulouse, le Centre communal d'action sociale, dans un centre d'hébergement qui recevait des hommes et des femmes sans logement. Et même si cette expérience de travail était très positive pour moi, l'inconvénient était que je travaillais le soir, en soirée. Devenu père, c'était incompatible pour moi de ne pas retrouver ma petite le soir. Et donc j'ai cherché un autre travail et par chance j'ai été embauché par l'Amicale du Nid en 91. Amicale du Nid que j'ai quitté en 2018, je suis parti à la retraite.
Pour les auditeurs, il faut repréciser que le Nid, c'est une association qui s'occupe des femmes qui, en fait, vendent leur corps.
Voilà, des personnes qui se prostituent.
Qui sont contraintes, souvent.
Alors voilà.
Et parfois, qui le font.
Oui, oui. Bon, alors, il y a pour moi une trentaine d'années donc, de travail auprès de ce public qui était globalement, enfin, majoritairement des femmes. J'ai accompagné quelques hommes aussi, y compris des hommes qui se prostituaient et qui vendaient leurs services à des femmes. Et également des personnes transsexuelles. J'ai fait un travail assez conséquent dans l'accompagnement des personnes transsexuelles, qu'ils soient individuelles ou en collectif, en animant un groupe de parole pendant quelques années auprès de personnes transsexuelles.
En fait, le levain dans la pâte, c'est tout le symbole de cette énergie qui repart. Et le livre de Jean Laure, dont nous avions évoqué le titre, le levier. Nous sommes pour les autres une possibilité d'émancipation et d'affranchissement. D'où cette lueur. Vous, la Bible, c'est pas votre tasse de thé, si j'allais dire.
Mais je la connais pas.
Voilà. Mais en même temps, vous évoquez cet amour, ce mystère qui transparaît à certains moments dans certains textes. Et vous êtes également très engagé, par ailleurs, dans d'autres associations.
Alors, bon, maintenant que j'ai pris ma retraite donc, il y a 2 ans, je me suis laissé 2 ans de récréation. Et j'ai fait la demande et elle a abouti et aujourd'hui je suis un membre actif des Petits Frères des Pauvres où ma mission consiste à rencontrer, en ce moment c'est rencontrer ou téléphoner, mais en tout cas établir un lien et entretenir un lien avec des personnes âgées isolées. Voilà, c'est une continuité pour moi. C'est pas tant que je ressentais le besoin d'être dans une démarche de nouveau d'aidant, mais il y a pour moi une dimension de devoir citoyen, de devoir de fraternité. J'estime que si chacun donnait un petit peu à celui qui a besoin, eh bien, la vie serait plus facile pour beaucoup. Donc je le fais, je retrouve beaucoup de plaisir à faire ça. Et voilà.
On voit bien qu'à travers l'aide aux plus vulnérables, il y a à la fois le lien avec votre famille, avec votre papa, le lien aussi avec d'autres groupes dans lesquels vous avez milité. Et puis cette espérance qui fait que lorsque nous avions commencé notre entretien par le terme de déprime, c'est le danger qui nous guette, mais nous pouvons dépasser, surtout en ces temps de pandémie. Et nous approchons la fin de l'année, car l'émission a été enregistré il y a quelque temps, mais nous allons vers l'année 2021, donc nous ne pouvons que proposer aux auditeurs tous nos vœux pour cette année qui va arriver. Merci, Christian, de votre témoignage, de vos convictions et de votre foi, même si ce n'est pas dans ce que la théologie chrétienne appelle Jésus le Sauveur, mais nous partageons un certain nombre de ces paroles dans la recherche de l'amour.
Merci beaucoup de votre invitation. C'est une expérience tout à fait inédite pour moi de parler devant un micro pour la radio. Je souhaite également à tous les auditeurs, auditrices, bien sûr, de passer de très bonnes fêtes.
Et nous viendrons reparler de Jean Laure, Aurore boréale, réflexion sur la culture médiévale qui doit s'inculturer dans le XXIe siècle. Merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.